La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardi du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Juliette Rennes, qui est l'autrice d'un ouvrage très intéressant, c'est un beau livre avec des reproductions de photographies, qui s'appelle « Métier de rue ». Observer le travail et le genre apparu au 1900 et qui est paru aux éditions de l'EHESS. Eh bien, Juliette Rennes, bonjour.
Bonjour, Vlad.
Bonjour, bonjour. Et donc, vous êtes directrice d'études donc, à l'EHESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales. Et... Vous avez fait donc cet ouvrage très intéressant, mais peut-être par rapport à cet ouvrage-là, on peut aussi parler, vous en parlerez sûrement pendant l'entretien, d'un autre livre aussi que vous avez fait avec une exposition qui s'appelait « Femmes en métier d'homme, carte postale 1890-1930, une histoire visuelle du travail et du genre » qui était parue aux éditions Bleu Autour et un peu les mêmes thèmes que vous y abordiez. Et ben, par rapport à donc, votre livre très intéressant, donc sur, spécifiquement sur les métiers de rue à Paris en 1900, on peut dire que, pour présenter un peu, hein, ça commence par un peu une scène, voilà, c'est en février 1907, on va voir à Paris les premières femmes cochées. Cochère, et ça va, cet événement, il va alimenter une foule du badaud et donc susciter la curiosité des curieux, mais aussi de la presse. Et cet événement, il va être immortalisé par des reproductions d'images de cartes postales. Et la question que vous posez, c'est par quel processus ces femmes-là, ces travailleuses, elles vont accéder à des corporations qui était perçue comme masculine. Et vous vous demandez aussi comment on peut expliquer l'intérêt que de l'arrivée de ces femmes sur ces secteurs de travail, comment expliquer l'intérêt que ça provoque en général. Et parce que y a beaucoup d'autres questions. Voilà. Et aussi, pourquoi d'autres femmes qui travaillent avec... des métiers d'hommes qui sont dans le même type de cas, elle passe plutôt inaperçue à la même époque. Voilà, c'est plusieurs grandes questions comme ça que vous nous posez. Et donc, on va y répondre dans l'entretien, mais peut-être, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi vous avez voulu faire cet ouvrage.
Oui, merci pour ces questions. Effectivement, vous avez raison, il y a un lien entre... l'ouvrage précédent, Femmes en métier d'homme, et qui s'est accompagné d'une exposition au musée de l'histoire vivante à Montreuil, et celui-ci plus largement sur les métiers de rue, c'est ce point commun, c'est la question de la notoriété des premières femmes cochées que vous avez rappelées, qui ont suscité des centaines de milliers de cartes postales circulant qui les représentaient, des centaines d'articles, et puis même sont devenus des personnages de fiction dans le cabaret, le musical, le théâtre et les premiers films muets de l'époque. Et en même temps, ont été très rapidement oubliés l'année suivante. D'autres actualités ont détrôné les premières cochères, donc j'ai voulu poursuivre l'enquête que j'avais commencé avec Femmes en métier d'homme qui abordait une diversité de représentations de femmes qui exercent des métiers statistiquement et traditionnellement masculins, en m'interrogeant sur les mécanismes de cette notoriété de ces femmes cochères, alors même que elles ne sont pas les seules, comme vous l'avez rappelé, à exercer des métiers traditionnellement masculins. Les statistiques montrent d'autres femmes minoritaires, voire exceptionnelles dans des corporations qui sont occupées par des hommes à Paris dans ces mêmes années. Et puis, plus largement, j'ai voulu m'intéresser à l'expérience, essayer de restituer l'expérience de travailler sous le regard public. C'est une expérience spécifique que ces femmes ont eue pendant 6 mois parce qu'elles investissaient un métier d'homme et qu'elles étaient sous le regard, vous l'avez rappelé, des badauds, des passants, des flâneurs, des photographes, des journalistes, des reporters, et que des attroupements assez impressionnants se produisait autour d'elle, mais aussi parce qu'elle partageait avec d'autres travailleuses et travailleurs qui travaillent dehors l'expérience de devoir vivre sa journée quotidienne sous l'œil ou dans l'indifférence, mais en tout cas avec la coprésence de cette population parisienne très dense de ces années 1900. Et l'élargissement de mon enquête à partir des cochères au métier de rue, ça a été d'essayer de comparer, d'essayer de restituer ce monde du travail de rue qui a été peu investigué en histoire, c'est-à-dire que paradoxalement on a une multiplicité de traces visuelles puisque cette question des métiers de rue a été abondamment documentée par les photographes de l'époque et commercialisée à travers des cartes postales, mais en revanche peu d'enquêtes d'histoire sociale sur ces différents métiers. On a quelques travaux sur les chiffonniers, sur les camelots, sur les cochers, mais des dizaines et des dizaines de métiers de rue sont restés en dehors des radars de l'enquête des historiens et des historiennes. Et la question du genre de ces métiers a encore davantage été ignorée. Et donc, c'est cette question d'abord d'histoire sociale sur qui travaillait et comment s'organisait ce monde des métiers de rue, comment il était surveillé et réglementé par la police, et puis la question de ce qu'on pourrait appeler les régimes de visibilité, c'est-à-dire qui sont il suffit pas de travailler dans la rue pour être vu, donc qui est observé, regardé, qui suscite l'intérêt des photographes, quels sont les petits métiers qui deviennent un peu des types dans l'imagerie de l'époque. Donc j'ai essayé d'articuler ces deux types de questions, celle des représentations et celle des rapports de genre dans l'espace urbain parisien.
Oui, donc d'abord, il faudra aussi parler de c'est quoi c'est ce qu'on appelle donc les métiers de rue. Et que les métiers de rue, c'est une chose, mais les petits métiers parisiens, c'est une chose, et les métiers de rue, c'est encore une chose un peu plus large par rapport à votre voie. Oui. Au début du XXe siècle, hein, les petits métiers parisiens, hein, vous dites, hein, c'est une multitude d'activités de vente, services ou aussi artisanat qui sont sur la voie publique, exercées sur la voie publique. Voilà. Donc c'est très vaste et large. Il y en a qui sont assez anciens, il y en a qui sont beaucoup plus récents. Voilà, c'est pas homogène. Déjà, il y a une grande pluralité de métiers, et que une part qui était assez mixte depuis un certain temps, mais d'autres qui étaient beaucoup plus vus comme masculins. Et c'est là qu'il y a peut-être d'avoir une petite forme de pas de bifurcation, mais voilà, de petite forme de bifurcation personnelle, de transgression de normes genrées par l'apparition de certaines femmes qui occupent ces postes-là, quoi.
Oui, tout à fait. J'ai distingué ce qu'on appelle à l'époque les petits métiers, qui sont les métiers des gagne petits, un autre terme de l'époque, donc des travailleuses et travailleurs qui ont des revenus très très bas et qui sont des métiers, vous l'avez rappelé, dont certains sont très anciens, donc les chiffonniers, les rémouleurs, et d'autres sont beaucoup plus liés à la modernité des années, qui commencent, disons, dans la seconde moitié du 19e siècle, des métiers qui sont liés à l'explosion de la presse de masse, donc les afficheurs qui affichent dans Paris les unes des journaux, les hommes sandwich qui circulent dans Paris avec des pancartes publicitaires pour notamment des journaux ou des spectacles. Et par exemple, ces hommes sandwich ou les afficheurs sont des corporations, enfin des groupes professionnels quasiment non mixte, et l'arrivée des premières femmes, tout comme celle des cochères dans ces activités, suscite de nombreuses images dont j'ai aussi restitué la trace. Voilà.
D'accord. Et voilà, ça d'une part. Et d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous croisez l'histoire du travail, l'histoire du genre, mais aussi l'histoire de l'urbain, donc des changements urbains dans la ville à cette époque. Et aussi, dans ce livre, c'est intéressant, vous interrogez aussi la mise en image des corps de ces catégories laborieuses. Et donc, un peu une grande question que vous posez, c'est quel regard au sens propre, comme au sens figuré d'ailleurs, sont portés sur ces femmes qui exercent donc des petits métiers de rue. Et ça, c'est intéressant et ça, c'est un peu transversal comme thème, donc ça oui. C'est ça qui est assez intéressant.
Oui, en effet. Alors, je vous ai coupé peut-être.
Non, non, allez-y.
Oui, le sous-titre du livre, Observer le travail et le genre, effectivement, met l'accent sur cette question du regard que j'ai voulu appréhender à la fois à travers la culture visuelle qu'on a évoquée au début, donc les cartes postales en particulier, mais aussi les photographies qui n'ont pas été éditées en cartes postales. Donc j'ai comparé aussi ces images commercialisées selon qui correspondent à des normes de représentation qui ont du succès à l'époque, avec des images de photographes amateurs qui permettent d'avoir un autre regard sur la rue et ses travailleuses et travailleurs à l'époque, et puis des ressources picturales aussi, puisque la peinture impressionniste et la peinture naturaliste documentent aussi la question du travail de rue, et puis des observateurs qui ne passent pas par la mise en image, que sont les reporters, les auteurs d'enquêtes sociales qui font des enquêtes sur le travail, notamment pour le réformer ou en dénoncer les injustices. Et puis, bien sûr, les policiers qui, à l'époque, les agents de police, les gardiens de la paix, qui sont les surveillants de ces travailleurs et travailleurs qui sont obligés de se déclarer à la police pour occuper la rue, que ce soit dans le cadre de leur activité professionnelle, que ce soit des camelots, des vendeurs de journaux, des prostituées, des marchands de cas de saison. Tous ces groupes professionnels, en fait, ne peuvent exercer leur activité sans y être autorisés par la préfecture de police. Donc ils ont des cartes ou des médailles professionnelles, et ce sont des personnes qui sont très très couramment arrêtées par les agents de police pour qu'on contrôle leur droit à occuper cet espace à telle heure. Et ces arrestations très courantes, parfois quotidiennes, hein, tous les reporters qui font l'essai de s'embaucher comme marchande de quatre saisons, comme vendeuse ou vendeur de fleurs ambulante, ou qui accompagnent ces travailleurs dans leur activité ordinaire, témoignent du caractère tout à fait quotidien de l'expérience des arrestations policières. Et pour les prostituées, on peut la quantifier à travers les sources. C'est un minimum 10 arrestations par an pour une prostituée encartée. Et donc, c'est aussi l'observation l'information de la police à travers les sources et les archives policières que j'ai utilisées pour comprendre cette expérience des travailleurs de rue, de la surveillance, et puis aussi pouvoir accéder, même si c'est des sources à manier avec, avec précaution, à leur voix, à leur prise de parole, la façon dont ils se rebellent contre ces arrestations, puisqu'on a des traces dans les archives des commissariats de quartier de ces interactions conflictuelles avec la police. Donc c'est l'observation sur les femmes, vous l'avez dit, qui travaillent, mais aussi sur les hommes, puisque j'ai consacré un chapitre aux masculinités et à la façon dont les hommes qui occupent la rue à travers des petits métiers ou plus largement des métiers de rue, puisqu'on peut distinguer, voilà, dans le vaste monde, de ceux et celles qui travaillent dans la rue, ceux qui exercent des petits métiers indépendants et puis ceux qui travaillent pour un patron comme justement les cochers, les ouvriers du bâtiment, les ouvriers des chantiers du métro qui occupent aussi la rue, mais qui ne sont pas catégorisés à l'époque comme des petits métiers, soit parce que leurs revenus sont plus élevés, soit parce que c'est des groupes de travailleurs qui exercent une activité pour un patron, par exemple.
Eh bien, on va faire la première pause musicale avant d'aborder d'autres sujets.
Je veux savoir vraiment à quoi je ressemble au commun des banlieusards. Je connais ces murs par cœur, man, qui ont broyé notre enfance. Un peu de fierté tout de même sur des figures de salauds. Chasse naturelle, il revient au galop. Trop de galères, cousin, pour rien de glorieux. Si ce n'est que la une des sous-sols, des quelques fanzines sérieux, des quelques tribunaux de vitriol. Ne me demande pas de choisir entre la poudre et le plomb. Je suis ce feu qui se déclare dans un champ de coton.
À ma fenêtre, le givre d'un jour d'hiver trop gris a ouvert un de mes livres au chapitre des incendies. Comme à l'accoutumée, comme un besoin trop mal sevré, j'y recherche des balles, quelques flèches létales et un peu de pomme au cœur pour la cuirasse d'un franc-tireur. Pour la cuirasse d'un franc-tireur. Un arsenal artisanal qui choisit ses mots comme on commet un homicide et parfume ses phrases de quelques gouttes d'acide. Notre époque encore est celle des arbres morts, à quelques pas à peine des plus belles fontaines. Et si tu n'es pas né où il fallait, il va falloir, comme dirait le vieillard, apprendre à voir clair dans le noir.
Des coulisses aux planches,
des coulisses aux planches,
des jours sombres, nuits de revanche,
nuits de revanche.
Quelques rumeurs larvées, comme des braises qui menacent de s'enflammer après l'extinction d'un incendie. Des coulisses aux planches,
des coulisses aux planches,
des jours sombres, nuits de revanche,
nuits de revanche.
Quelques rumeurs larvées, comme des braises qui menacent de s'enflammer après l'extinction d'un incendie.
Quand j'arpente ces couloirs, que l'angoisse me prend à la gorge, des millions de bactéries aux lèvres, faut que ça sorte à la porte. Des coulisses de cette pièce bondée, les joyeux de riz gesticulent avec le sourire carnassier. Alors que leur conspiration s'ébride par des trous de serrure, à la lueur d'une chandelle de sang striée de noir, leur sombre réunion se dévoile une forfaiture. On y trouve des lames fines et tout un tas d'accessoires.
Sur un son qui t'urine, pendant que tes potes urinent dessus. Quand t'es accro, quand l'insuline te suffit plus. Pendant que tu vérifies si t'as piqué la bonne veine. Mon son s'affirme avec la haine dans ses gènes. Et ça monte doucement d'un cran. Avant que tu partes les pieds devant, attends que les petits deviennent grands. Et tous bougants, quand les chacals sont sortis. Arrête ton char si t'as le choix, après les ronces et les orties. Depuis qu'ils ont sauté les planques, combien de camés en manque. Prêt à te canner quand les ventes d'armes augmentent. Et qu'ils veulent que nos cadavres pourrissent. Y'a nos affaires qui tournent en coulisses.
Des coulisses aux planches,
des coulisses aux planches.
Des jours sombres, nuits de revanche,
nuits de revanche.
Quelques rumeurs larvées, comme des braises qui menacent de s'enflammer après l'extinction d'un incendie. Des coulisses aux planches,
des coulisses aux planches.
Des jours sombres, nuits de revanche,
nuits de revanche.
Quelques rumeurs larvées, comme des braises qui menacent de s'enflammer après l'extinction d'un incendie.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On a écouté le groupe La Rumeur et le titre du morceau, c'est Les coulisses de l'angoisse. Donc on continue notre entretien avec Juliette Rennes par rapport au son livre « Métier de rue, observer le travail et le genre à Paris en 1900 ». Et donc, par rapport à cette métier de rue, donc, oui, il y a deux grandes caractéristiques hein, à Paris sur le travail féminin. Par exemple, hein, c'est à Paris, les femmes elles sont 42% de la population active des travailleurs, alors qu'en France, toute la France nationale, sont 35,5%. Donc il y a plus de femmes qui travaillent à Paris que dans le reste du pays. Ça, c'est aussi par rapport aux migrations pour trouver du travail en ville. Ça, c'est un phénomène quand même assez connu. Mais aussi, une autre caractéristique, c'est qu'il y a un nombre très limité de domaines professionnels dans lesquels elles exercent. C'est surtout concentré dans ce qu'on appelle le travail des étoffes, le travail du vêtement, mais aussi ce qu'on peut appeler le service domestique ou le commerce, jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'à 1914. Alors que pour le travail masculin, il n'y a pas la même limitation, par exemple. Et voilà. Et ce qu'on peut dire par rapport à ce travail et par rapport au regard qui a été posé dessus, surtout par rapport à donc ces cartes postales que vous avez étudiées, c'est que ce regard-là qui a été posé sur eux, hein, de la part des commentateurs ou des photos, ça contribue à naturaliser une représentation de ces travailleurs-travailleuses. Et ces images, quelque part, elles vont invisibiliser leur travail en tant que, d'une part, en tant qu'expérience savoir-faire, mais aussi en tant que condition d'exploitation. Et donc, ça va créer une distance entre elles et le public qui est visé. Or, ces travailleuses, donc ces femmes-là qui occupent des activités plus ou moins tradition masculine, elles produisent une sorte de discordance par rapport à l'ordre social, par rapport à toutes ces normes, toutes ces normes qui impliquent normalement un ordre genré apparemment intemporel où chacun reste à sa place. Et là, ça crée quelques discordances. Et voilà. Donc, ce que ces cartes postales ne montrent pas, est-ce qu'il y a derrière, est-ce que vous avez un peu creusé dans votre livre. Donc, si vous pourrez un peu nous parler de cette question-là.
Oui, tout à fait. Les cartes postales qui appartiennent souvent à des séries sur les petits métiers, le Paris pittoresque, par exemple, ont une forme de représentation que j'analyse dans le livre qui, comme vous l'avez dit, tient plutôt à distance les sujets, les modèles représentés et ne restitue pas, ne cherche pas à restituer ni leur singularité. Ce sont des types, donc l'affûteur de scie, le camelot, le crieur de journaux, la marchande de fleurs, le fait que ce soit des articles définis, les réduits donc à un type, et ils ne sont jamais nommés, ils sont anonymisés, contrairement justement aux femmes cochées auxquelles on va donner sur les cartes postales un nom et un prénom, et qui vont même avoir le privilège d'être photographiées en studio, les photographies en studio sont le domaine réservé, comme l'a dit l'historien André Rouillet, de la redingote et de la crinoline, hein, des bourgeois et de l'aristocratie, et on n'y trouve pas des ouvriers, on n'y trouve pas des cochers. Donc le fait que des femmes cochères soient photographiées en studio comme des bourgeois et des aristocrates, et comme à l'époque, dans les années 1900, des célébrités des arts et du spectacle, les distingue du reste des travailleuses et travailleurs de rue. Alors c'est une distinction qui n'est pas vouée à dignifier leur statut de travailleuse, mais plutôt à accentuer leur caractère hors du commun de femmes en métier d'homme. Donc c'est une logique qui est très ambivalente, parce que c'est parce qu'elles sont exceptionnelles qu'on les met en avant, et non pas pour mieux saisir des personnes dans leur expérience de travail. Mais donc toutes ces cartes postales du Paris pittoresque ont une spécificité parce qu'elles visent à illustrer des métiers qui seraient incarnés par des types et qui seraient pluriséculaires, c'est-à-dire des métiers qui existeraient depuis plusieurs qui auraient traversé les époques historiques jusqu'au point de devenir presque anhistoriques et qui sont présentés de façon un peu hors contexte, c'est-à-dire les travailleurs sont isolés souvent de leur environnement de travail, ils sont photographiés seuls. Et donc si on compare et donc à une certaine distance où on saisit peu leur expression faciale, donc on n'entre pas, le spectateur et spectatrice de ces images n'entre pas en, n'est pas interpellé. Le photographe ne les fait pas entrer en contact direct avec ces travailleuses et travailleurs, alors que d'autres images de photographes amateurs, donc des images qui ne sont pas éditées en carte postale à l'époque et qui ont maintenant acquis une notoriété et qu'on trouve dans des circulé dans des expositions, dans des livres, par exemple les images du photographe Louis Vert ont un regard tout à fait différent sur ces travailleuses et travailleurs de rue, les montrent non pas de façon immobile mais en action, notamment ils s'intéressent aux vieilles et vieux travailleurs dans la rue et les montrent à la fois dans l'usure et la fatigue de leur corps mais aussi dans leur énergie et dans leur mobilité perpétuelle. D'autres types d'images qui m'ont intéressée, qui sont les scènes de rue, que ce soit des photographies ou des représentations picturales, montrent des travailleurs et travailleuses de rue dans l'environnement humain et urbain de leur vie quotidienne, donc que ce soit l'indifférence de la foule ou des interactions avec d'autres travailleuses et travailleurs. Et donc on a un contraste entre plusieurs régimes de représentation qui isolent plus ou moins ou pas ces personnes de leur environnement.
Voilà. Et par rapport à ces femmes, vous dites qu'il y en a certaines, elles occupent des métiers d'hommes. Il y en a aussi quand même qui travaillent dans des champs où leur présence est en scène. Par exemple, hein, vous citez ce qu'on appelle la vente à place fixe en plein air. Donc c'est un peu les vendeurs de rue, un peu... Ce qu'on trouve maintenant en travail informel dans les pays du tiers-monde, mais qui était encore à l'époque, à Paris en 1900, on en voyait énormément. C'est vrai, c'était un secteur assez mixte. Par exemple, et qui se réalise hein, aussi, vous dites, hein, que dans les interstices que le temps que laisse le travail domestique et donc le fait de subvenir aux besoins de la famille, enfin bref, élever les enfants, etc. aussi, c'est du temps de travail qui n'est pas compté à l'époque dans le travail, mais qui est quand même beaucoup du travail et d'ailleurs pas rémunéré du tout, mais c'est une autre question. Et voilà. Et par rapport à ça aussi, vous dites que les travailleuses minoritaires, donc les femmes cochées, elles ont un parcours biographique. Alors, par exemple, vous citez Clémentine Dufaux, hein, la cochère, ou Marie Ludgen, qui est une trans suisse de clash. Donc, Clémentine Dufaux, elle avait pour mari un cocher, donc ça a un peu aidé. Et Marie Ludgen, c'était aussi une trans suisse de clash autant que de genre, qui a eu un parcours atypique au sein de cette catégorie aussi atypique. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, toutes ces questions-là qui sont très peu abordées sont très, très intéressantes.
Oui, Marie Ludgen, c'est une je dirais que c'est une déclassée plus qu'une transfuge de classe, au sens où, enfin, même si transfuge de classe peut être employée aussi dans ce sens-là, mais elle est issue d'un milieu très privilégié, et c'est parce qu'elle a perdu, donc elle a fait un mariage, elle vient de la grande bourgeoisie, elle a fait un mariage avec un aristocrate, et c'est parce qu'elle perd toute sa fortune dans des mauvais placements qu'elle se retrouve à devoir chercher un travail, et parce que son éducation bourgeoise puis sa socialisation par son mariage dans un milieu aristocratique l'a familiarisée avec le monde des chevaux, de la conduite attelée, hein, parce qu'on sait que en fait que c'est de s'occuper des chevaux, avoir des chevaux, avoir des calèches, reste aussi une marque sociale à l'époque du Paris mondain. Elle a ce savoir-faire acquis qui lui donne l'idée de se présenter à ce métier traditionnellement masculin. Et en fait, toutes les femmes, les quelques femmes, hein, parce que il y en aura jamais plus d'une vingtaine à l'époque de femmes cochées sur 20 000 hommes, ont des savoir-faire acquis parfois en milieu rural. Beaucoup sont de milieux plutôt filles de paysans et donc venues à Paris travailler elles ont une familiarité avec les chevaux, soit parce qu'elles livraient au marché des fruits et légumes dans leur village, enfin dans leur avant de venir à Paris. Donc ça, c'est des éléments dont certaines font part, par exemple lors d'arrestations ou dans des entretiens dans la presse. Donc elles transfèrent ce savoir-là qui est ordinaire en milieu rural dans un espace, l'espace urbain parisien, où le fait de conduire des voitures attelées pour le transport urbain des personnes est un privilège masculin et donc réservé à ces corporations qui n'ont jamais été mixtes. Et si elles font cette bascule, c'est aussi parce que il y a tout un tas de changements que j'analyse dans le livre. D'une part, c'est la première génération de femmes qui a été systématiquement scolarisée à travers l'école publique laïque gratuite obligatoire de Jules Ferry. Donc qui sont, on le voit, parce que elles savent lire et écrire. C'est une compétence nécessaire quand on n'est pas parisien, pour préparer l'examen pour devenir cocher, parce qu'il faut apprendre par cœur. Il y a un examen où il faut pouvoir dire comment on va du théâtre des variétés à la rue des Rigoles, par exemple, et donc il faut pouvoir répondre dans l'examen à cette question, quand bien même on n'est pas familier du plan parisien. Et donc les cochères apprennent, et les cochers aussi qui viennent de diverses régions de France en général, beaucoup d'Auvergnat par exemple, apprennent par cœur en passant par l'écrit, des itinéraires. Et c'est aussi par l'écrit et par la lecture de la presse, de la grande presse parisienne, notamment le Petit Parisien, que des cochères ont appris qu'il y avait une femme qui s'était présentée à une école de cochers. Et c'est par le biais de cette information que d'autres, en fait, se sont lancés dans l'aventure. Donc, il y a encore d'autres changements que j'analyse dans le livre, qui fait que il y a ces bifurcations biographiques de femmes qui étaient avant cuisinières, marchandes de au hall, qui exerçaient divers métiers plus traditionnellement féminins et qui s'autorisent à ce moment-là, dans un contexte aussi de mouvement féministe important, à se présenter à cet examen de cocher.
D'ailleurs, par rapport à ces mouvements féministes, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous dites dans le livre, l'apparition de ces figures-là, donc de travailleuses, ça n'a pas directement à voir avec les luttes féministes de l'époque, comme celle des suffragettes, par exemple, mais qu'elle est plutôt liée à des entrepreneurs qui vont en tirer un profit matériel ou symbolique dans un contexte de circulation du féminisme. Et en fait, vous dites que les perceptions de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les progrès du féminisme à travers ces emplois-là, ils sont contrastés. Donc, vous nous parlez du côté burlesque qu'on donne donc à ces cochères, à ces femmes qui sont cochées, par exemple. Vous parlez aussi d'afficheuses en trompe-l'œil, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est... c'est assez ambivalent quand même.
Oui, tout à fait, vous avez raison de le préciser. Je montre dans le livre que les féministes ne sont pas à l'origine de l'accès de ces femmes à des métiers de rue traditionnellement masculins, que ce soit les premières afficheuses ou les premières femmes cochées. C'est pas, j'ai, en dépouillant les journaux féministes de l'époque, les archives qu'on a du Conseil national des femmes et d'autres associations, c'est pas une revendication qui émerge, alors même que les féministes revendiquent l'accès à d'autres métiers qui sont pas plus lucratifs. C'est pas juste, on pourrait se dire, bah, c'est une question de classe, c'est-à-dire les féministes de l'époque étant plutôt des femmes issues de la bourgeoisie revendiquent davantage l'accès à des métiers diplômés comme les métiers mais dans l'enseignement, la médecine, le barreau, c'est un peu le cas aussi, mais il y a dans les archives du féminisme à l'époque, on voit des campagnes de mobilisation féministe pour l'accès à des emplois de bureaux ou dans des établissements pénitentiaires, dans des établissements de la petite enfance qui sont moins lucratifs que d'autres métiers de rue, par exemple, que d'autres métiers dans la rue, comme le métier de cocher ou des métiers dans le bâtiment, qui peuvent être source de rémunération supérieure. Mais ces féministes sont prises aussi dans les normes de l'époque sur la division genrée entre sédentarité et mobilité et entre intérieur et extérieur. Donc ces deux types d'opposition qui fait qu'elles ont tendance à réclamer pour des femmes des métiers plutôt qui s'exercent en intérieur, que ce soit en établissement en établissement commercial ou public ou à domicile, et puis plutôt sédentaire, c'est-à-dire qui n'implique pas une mobilité perpétuelle dans l'espace urbain. Mais néanmoins, à partir du moment où des femmes deviennent cochées puis afficheurs, elles soutiennent au nom du libre accès des femmes à toutes les professions, qui est leur credo qui est le credo partagé de la plupart de ces associations. Elles soutiennent ces femmes, mais elles ne sont pas à l'origine, contrairement par exemple aux premières doctoresses ou avocates, où là il y a eu vraiment des campagnes féministes de mobilisation qu'on peut restituer. Elles ne sont pas à l'origine de cet accès des femmes. Et vous rappeliez le rôle des entrepreneurs. Et je montre en effet, c'est une découverte de mon enquête, parce que je m'attendais pas à ce rôle-là des entrepreneurs. Je pensais que c'était les féministes à l'origine qui avaient poussé pour l'accès des femmes à ces métiers-là. Des entrepreneurs y ont vu une occasion de mise en spectacle. Donc les compagnies qui ont embauché les premières cochères ont bénéficié effectivement du succès phénoménal, parce que hors du commun, de ces femmes auprès des clients et on le voit sur les cartes postales dont j'ai étudié les correspondances, des personnes se vantent d'être montées dans le fiacre d'une cochère, parce que c'est des notoriétés pendant quelques mois, et donc il y a ce succès qui leur crée aussi l'envie et de leur confrères cochers, donc des accidents volontaires, malveillants aussi, sont produits envers ces femmes. Donc finalement, il y a tout un discours comme quoi le métier de cocher n'était pas fait pour les femmes, et donc elles risquaient leur vie, elles ne sauraient pas conduire, mais finalement le principal risque auquel elles sont confrontées, c'est ces accidents malveillants provoqués par leurs concurrents. Et concernant les afficheuses, effectivement, c'est aussi un entrepreneur qui, voyant le succès des femmes cochées, un entrepreneur de panneaux publicitaires, qui s'appelle Gabert à l'époque, un peu comme le JC Déco d'aujourd'hui à Paris, embauche des femmes en se disant que des femmes collant des affiches dans l'espace public allaient attirer un vaste public pour ses panneaux à lui, ce qui est effectivement le cas. On a des attestations visuelles de ces attroupements, et des éditeurs de cartes postales montrent les afficheuses et du coup font la promotion indirecte de ces panneaux Gabert, puisque le nom de Gabert apparaît en grosses lettres sur les panneaux, mais sur aussi les casquettes des afficheuses, etc.
Eh bien, on va refaire la pause musicale avant d'aborder les dernières questions.
Dans mes larmes et j'arrête pas de chialer. Faut que j'évacue comme une diarrhée. Je sais pas si tu comprends que je me soulage. Foudrage, j'ai des pages pleines d'insultes. Lâche la bête et elle fait un carnage. Réservé aux adultes, je suis un moteur poussé à la rupture. Avec tellement de chevaux sous le capot pour pas qu'on me capture. Pur produit de ta banlieue. Là où au carrefour de la vie j'aurais grillé les feux. Et au feu les pompiers quand les véhicules brûlent. Au pied des bâtiments, que des virgules autour de pitbulls. Circule si t'as rien à foutre dans le coin. Soit t'achètes, soit tu vends, soit tu payes ton joint. D'un côté c'est les bénéfs, de l'autre les tiges. Ou la tôle pour quelques piges. Dans ces villes dortoirs, cœur du litige. Où on est tiré du sommeil par la faim. Comment veux-tu qu'on ne pense pas qu'à l'oseille à la fin. Putain j'assiste au combat de coq qui troquent leur bec pour un prolique. Tous au chômage chronique, tous malades. Parce que par la racine la fleur pue. Alors on soigne à la médecine douce et à l'air pur.
Peux-tu entendre le silence de ma rue? Peux-tu entendre le silence de ma rue? Le silence de ma rue. Peux-tu entendre le silence de ma rue?
Proche de la fin, j'ai bientôt noirci mes feuilles blanches. Et vu que le fruit se décompose, faut que je m'accroche à la branche, pas à ta blanche poudre. Tu serais content de voir mes cellules se parfumer à la soude. Ou mon cerveau dans un thé à coudre, tout pour me dissoudre. Putain de trottoir, jamais trop tard pour trouver de l'alcool dans ce dépotoir. Faut croire que le poison se plaît dans nos quartiers, vu que c'est le seul à pouvoir circuler sans papier. Et quand c'est pas derrière les barreaux, c'est des gosses à l'hosto. La police musclée correspond contrôle costaud. Hostile, parce que jamais tranquille, puisqu'ils nous veulent mort ou entièrement. Docile, un pour tous, tous pourris. C'est leur nouvelle devise. Donc t'étonne pas si personne te sourit. Incompatible avec tes lois, comme tes règlements. Comme ces putains de décrets que j'arrose excréments. Extrêmement dur dans mes textes, comme sur le pavé. S'ils savaient ce que je ferais si j'étais pété de thunes. Quand j'ai la plume gavée, faut surtout pas que tu me pousses. Avec cette rancune, mais sur le bitume, je les encule tous.
Peux-tu entendre le silence de ma rue?
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. On écoute toujours le groupe La Rumeur et le titre du morceau, c'est Le silence de ma rue. On va finir notre entretien avec Juliette Rennes par rapport à son ouvrage Métier de rue, observer le travail et le genre à Paris en 1900, qui a été publié aux éditions de l'EHESS. Et il y avait une question aussi qui était... Vous parlez qui nous intéresse quand même pas mal, on a un peu oublié, c'est la question de l'âge par rapport à ces travailleurs et travailleuses entre une petite voilà que entre les vieux travailleurs et jeunes travailleurs qui seraient valorisés et enfin jeunes travailleuses qui seraient valorisées mais aussi érotisées etc etc et vieilles travailleurs qui seraient au contraire disqualifiées ou invisibilisées ou disqualifiées et Ce qui est assez intéressant, parce que vous dites qu'elles ont, en vieillissant, elles ont une forme d'invisibilité, mais qui les rend quand même plus libres de circuler. Mais vous vous posez la question, dans quelle mesure ça constitue un obstacle ou une ressource pour exercer le travail dans la rue quand on est plus âgé que quand on est jeune et, par rapport aux hommes qui n'ont pas la même chose. Par exemple, pour le vieillissement des hommes, c'est par rapport aux métiers qu'on dit virils, et eux qui sont disqualifiés peut-être parce qu'ils sont vieux, mais ce n'est pas les mêmes choses entre les hommes et les femmes. Et c'est assez intéressant, tous ces regards par rapport aux travailleuses âgées, jeunes ou âgées, et par rapport à ça, par rapport au regard et par rapport aussi à leurs conditions de travail, etc., etc.
Oui, tout à fait. Vous avez mentionné tout à l'heure les statistiques sur les 42% de travailleuses dans la population active à Paris, qui est un peu plus élevée que la moyenne, les travailleuses parisiennes sont aussi plus jeunes que dans la moyenne nationale. Enfin, la population parisienne est plus jeune parce que les femmes et les hommes y viennent travailler et puis une partie d'entre eux repartent dans leur village ou ville d'origine une fois qu'ils ne sont plus employables, selon un terme contemporain, mais qui résume bien leurs expériences des âges du travail. Et les femmes sont un peu plus jeunes encore que les hommes parce que les métiers de femmes à Paris sont des métiers de jeunesse dans leur majorité, ceux que vous avez cités dans la domesticité, le commerce, le textile, les étoffes, les ateliers de couture, etc. emploient des femmes vraiment très jeunes. Et je montre que ces femmes, ces jeunes filles et ces jeunes femmes, donc les apprentis aussi, qui dans la couture, qui ont entre 12 et 16 ans, sont s'expose dans la rue, puisque c'est mon lieu d'enquête, la rue et le travail, s'expose à ces personnages plus âgés qu'on appelle les vieux marcheurs ou les suiveurs, qui donc suivent ces jeunes parisiennes avec l'intention de leur parler, les toucher, les emmener prendre un café, avoir une relation avec elles, sexuelle, éventuellement monnayée. Donc il y a tout un continuum aussi de pratiques de relations économico-sexuelles qui ne sont pas qualifiées comme prostitutionnelles, mais qui impliquent aussi éventuellement de l'argent et beaucoup de ces femmes, pour la trace qu'on a de leurs paroles, se plaignent en fait de cette expérience qu'on n'appelait pas le harcèlement de rue, mais qui était énoncé en des termes comparables. Et les féministes évoquent aussi, dans la Fronte, par exemple, journal féministe de l'époque, c'est boulets, c'est le terme de l'époque, c'est boulets qui suivent les femmes sans jamais entendre leur refus, leur non, qui persévèrent malgré leur l'indifférence de ces femmes. Et il y a même des cours d'autodéfense qui sont développés à l'époque. Donc il y a cette expérience-là des jeunes, d'une partie des jeunes travailleuses, et je pose la question de savoir si l'âge, l'invisibilité plus grande liée à l'âge est une forme de libération par rapport à cette expérience du harcèlement. Alors, ça l'est en partie, mais évidemment, l'âge est aussi un poids et un stigmate en termes d'employabilité. Les femmes plus âgées, et là, on peut vraiment le montrer à travers des statistiques, ont beaucoup plus de difficultés à partir de 35, 40 ans, 45 ans à trouver un emploi. L'écart entre l'emploi masculin et féminin s'accroît au fil de l'âge, et les métiers refuge pour employer une expression de d'Alain Cottereau, un sociologue et historien du travail, les métiers refuges du vieillissement, c'est-à-dire qui sont accueillants pour les vieux et les vieilles, sont beaucoup des métiers de marchands ambulants, de marchands à place fixe dans la rue. Et ces femmes âgées qui exercent ces métiers sont certes n'expérimentent pas le harcèlement des vieux marcheurs ou des suiveurs, mais elles sont confrontées aux interpellations quotidiennes de la police. Et là, on le voit vraiment aussi dans les sources. L'âge n'est pas protecteur de ces persécutions policières, pour employer le terme de l'époque. On ne parle pas de violence policière, mais de persécutions policières. Et on voit qu'elles sont aussi très souvent arrêtées. On les oblige à se déplacer dès qu'elles s'arrêtent pour faire une transaction avec un client pour vendre des fruits et des légumes, que ce soit au panier ou à la charrette. Elles sont arrêtées, enjointes de circuler, emmenées au commissariat. Et là, on voit des sources dans les reportages et dans les commissariats de femmes qui ont 60, 65 ans et qui sont malmenées parce que si ce sont, elles sont vues comme des cibles plus faciles qui vont pas rétorquer par la violence physique, même si elles rétorquent aussi par des formes de violence verbale que, dont on a la trace à travers les interpellations pour outrage. Et donc il y a cette expérience-là et d'autre part, vieillir dans la rue, enfin devenir invisible ou devenir moins désirable parce qu'on est vu comme vieille peut être un avantage pour certaines activités, mais évidemment pour d'autres comme la prostitution dont vit une partie des femmes de mon enquête, le vieillissement est une source évidemment de baisse de revenus. Je montre dans le livre que les prostituées âgées sont extrêmement minoritaires, c'est un métier dans lequel on vit peu et elles sont obligées de se prostituer dans des quartiers périphériques, dans des quartiers plus populaires. Elles passent du centre-ville à la Goutte d'Or, par exemple, ou à la Chapelle, où leur clientèle est une clientèle d'ouvriers qui ont moins de revenus et qui donc ne peuvent eux-mêmes pas prétendre à la valeur financière et symbolique de des prostituées jeunes. Donc il y a toute cette dimension de géographie sociale aussi des âges du travail qu'on observe avec la prostitution.
Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de retraite ni de choses de ce genre. Donc quand on était âgé, on n'avait pas de revenus. C'était assez compliqué. Et donc voilà, il y avait beaucoup de femmes âgées qui devaient se débrouiller toutes seules, aller exercer des travaux plus ou moins informels et débrouillards. Et vous citez beaucoup un journaliste écrivain hein, qui travaille pour l'Humanité. Enfin, ce sont deux, hein, c'est les frères Bonneuf, hein, Léon Bonneuf et Maurice Bonneuf qui écrivaient dans l'Humanité. Et à l'époque, ils étaient très lus. Et ils ont fait un livre magnifique hein, que je recommande, hein, qui s'appelle Aubervilliers, où c'est vraiment les chroniques de Paris populaire à l'époque, et vous le citez beaucoup dans votre ouvrage d'ailleurs. Et j'ai trouvé un passage très intéressant que vous citez, hein, c'est sur une personne âgée qui s'appelle la mère François, et qui donc doit aller ramasser elle, des crottes de chiens vers les grands marchés de la Villette, là où il y a tous les... Parce qu'elle les vend aux mégisseries qui emploient le confit de crottes de chiens pour retirer des peaux, la chaux ou les parties cranlées. Enfin bref, ça fait partie du travail. Et donc, voilà, elles vont... Et du coup, c'est assez intéressant. Et il y avait
Oui, ils disent qu'effectivement, voilà. Du fait de son âge élevé, qu'elle est obligée d'accepter n'importe quel emploi parce qu'elle n'a pas le choix du travail. Quoi.
Voilà, c'était très, très parlant ce passage-là, je trouve. Et voilà. Et du coup, il y a. On va peut-être finir quelque chose qu'on a pas trop oublié d'en parler. C'était. D'ailleurs, ces cartes postales, hein, une certaine. Alors, c'est un spectacle pittoresque, la valorisation du pittoresque des petits métiers, qui révèle d'une part la position de classe sous-jacente derrière. Donc, c'est les commentateurs qui sont des classes sociales plutôt privilégiées ou bourgeoises qui vont critiquer certaines formes de modernisation où il n'y a plus les anciens. Vieux métier, on ne peut plus flâner dans les magasins, admirer le spectacle des ouvriers, des ouvrières qui font des activités physiquement pénibles, voilà. Mais aussi, il y a forme de critique, nostalgie d'un patrimoine qu'il faudrait sauver, et derrière, ne pas voir derrière aussi, d'attaquer le discours du progrès de la modernité, mais de ne pas voir que derrière, il y a aussi vous avez parlé aussi de toutes les transformations en matière de féminisme, etc., etc. Donc, il y a aussi toutes les traditions qui sont aussi mises à mal. Donc, derrière, faire attention à cette fétichisation du pittoresque et des critiques un peu un peu de la modernité qui sont un peu limitées en regrettant le bon vieux temps de voilà d'une certaine forme de d'exploitation et voilà que ce discours-là est aussi très très ambivalent et vous
oui,
le soulignez
tout à
aussi
fait, je cite un passage par exemple où un écrivain flâneur, Octave Uzan, regrette que les bouquinistes des quais de Seine qui avant devaient porter sur leur dos pour les charger sur leur charrette chaque soir les boîtes de livres et qui désormais, puisqu'il y a la modernisation fait qu'ils peuvent laisser les livres dans des boîtes fixées au bord des quais, donc ils n'ont plus à faire cet exercice-là. Il reconnaît que c'est une amélioration pour eux, mais il regrette, en tant que dans sa position de spectateur flâneur parisien bourgeois, le spectacle de ces bouquinistes qui portaient par vents et marées sur leur dos des piles de livres. Et donc c'est un exemple de ce regard esthétisant aussi sur les travailleurs qui occupent la rue, qui sont vus comme un décor pittoresque et qui s'oppose aux lectures par exemple de celles des frères Bonnef que vous avez citées qui au contraire s'appliquent à chaque fois qu'ils font une enquête sur un métier à comprendre l'expérience y compris la pénibilité de ces métiers et donc j'essaye dans le livre de montrer les regards critiques qu'il peut y avoir à l'époque aussi sur ces discours du Paris pittoresque et d'interroger notre propre nostalgie par rapport à ces métiers-là, à ce Paris disparu. Et j'invite à la fin du livre aussi à politiser cette nostalgie au sens où à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut regretter. Alors certainement pas des conditions de travail pénibles, mais en revanche, on peut interroger et regarder avec intérêt la dimension, par exemple, écologique de ces métiers-là qui s'appuient sur une économie circulaire, de la réparation, de la production locale, puisque les fruits et légumes qui circulent viennent du maraîchage de Paris ou d'Île-de-France. Donc il y a ces dimensions-là qui peuvent nous interpeller, qui peut-être expliquent aussi le regard qu'on a aujourd'hui, qui est moins méprisant qu'on l'a eu dans les années 60 ou 70 sur ces années, sur ce monde du travail des petits métiers de rue parisiens des années 1900, mais avec l'idée qu'il faut pas avoir une vision idéaliste non plus de ces expériences de travail.
Et pour finir, il y avait une anecdote aussi. C'est intéressant, vous en pensez. La première femme qui était à la fois cochère et chauffeuse d'autobus, vous avez rencontré son arrière-petite-fille qui était gardienne d'immeuble dans le 20e arrondissement à Paris. Et même sa arrière-petite-fille, elle ignorait que son arrière-grand-mère était femme cochère et la première femme cochère et chauffeuse d'autobus. Vous dites qu'il y a plusieurs facteurs à cela et entre autres que la... Vu que c'était par rapport au Carposac, la mémoire visuelle de ces personnes-là, ces femmes cochères ou chauffeuses d'autobus, elle avait été effacée à l'époque de la Première Guerre mondiale par celles dont on appelait les remplaçantes, donc qui étaient donc les femmes qui est venu travailler à la place des hommes qui étaient partis à la guerre au front, qui avaient pris leur place dans les travaux d'usines ou d'armement ou autres, etc., qui visaient et il y avait beaucoup de cartes postales sur les remplaçantes qui visaient à célébrer l'esprit patriotique et la part qui aurait pris les femmes, mais qui étaient elles-mêmes d'ailleurs marginalisées aux dépens des infirmières qui avaient plutôt le figure de la brave et bonne femme, figure bien féminine, et un peu aussi que c'est pas tant des femmes hors du commun ou des pionnières qui seraient à héroïser, mais quand même qu'il y en a eu quelques-unes de ces femmes, elles sont plutôt plus plurielles que singulières, ces femmes, dans leur parcours et dans leurs activités. Ce n'est pas les femmes hors du commun qui seraient qui n'auraient rien à voir avec la commune des mortels. Ça aussi, il faudrait...
Oui, tout à fait. pour revenir au début de votre remarque, j'ai effectivement fait une généalogie descendante de la première femme chauffeuse d'autotaxi et qui fut cochère, Inès Descourcelles, et écrit à ses descendants dont j'ai trouvé les adresses dans les pages jaunes, et l'une d'elles qui m'a répondu, qui est une maintenant retraitée, qui est une arrière-petite-fille d'Inès Descourcelles, ignorait ce statut de son arrière-grand-mère alors même qu'elle avait fait sa généalogie, c'est-à-dire qu'elle était allée aux archives de l'état civil, elle avait trouvé les actes d'état civil de mariage, de naissance de cette arrière-grand-mère, mais il n'y avait pas trace de sa notoriété, de son énorme notoriété, parce que c'est des actes de naissance, et qu'elle n'était pas à l'époque de sa mort ni de son mariage, elle n'était pas ni cochère ni chauffeuse, donc elle ne connaissait pas toute cette iconographie que maintenant, toutes ces cartes postales que maintenant elle collectionne aussi. Alors même que moi j'avais l'espoir un peu naïf que en trouvant une descendante, peut-être j'aurais des archives familiales, que la famille se serait transmis des éléments sur cette femme, et ce n'était pas le cas. Et comme vous dites, il y a aussi eu cet effacement de ces premières femmes par les figures de ces remplaçantes en métier d'homme à partir de 1916-1917, pendant la Première Guerre mondiale.
Eh bien, j'espère que cette émission vous aura tous toutes intéressés, et on vous dit au revoir et à la prochaine. La tête dans l'étagère. Une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.